Pour son 40e voyage apostolique, le pape François s'est rendu en Afrique du 31 janvier dernier au 5 février. Il a visité la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan, un voyage important avec des rencontres et notamment avec plusieurs réunions privées avec des membres de la Compagnie de Jésus, mais aussi des aspects politiques et diplomatiques et bien sûr des moments de prière, sans oublier, comme à son habitude, les déclarations plus ou moins fracassantes et les interventions données à la presse au retour dans l'avion. Pour évoquer ce voyage apostolique, je reçois aujourd'hui le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus.
Bonjour cher monsieur.
Bonjour mon père, merci beaucoup de votre présence. L'abbé Hervé Benoît.
Bonjour Philippe.
Recteur du sanctuaire Notre-Dame des Enfants.
Mais ce n'est pas à ce titre-là que je suis ici.
Mais nous sommes heureux quand même de le signaler, ce sanctuaire avec ce si joli nom. L'abbé Grégoire Cellier de la Fraternité Saint-Pédis.
Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les spectateurs.
Et auditeurs.
Et auditeurs. Parce que... ah ben on s'est engueulé à chaque fois. On essaye de trouver un truc, on s'engueule à chaque fois.
Un certain nombre de personnes qui suivent le Club des Hommes en Noir nous écoutent à travers les podcasts, notamment
c'est quoi, sur... la fin dernière, je disais, les auditeurs maintenant.
Voilà, notamment sur Spotify et Deezer et sur le site internet de l'Homme Nouveau. Et puis le laïc de l'étape, Guillaume de Thieulois.
Bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs.
Multiples casquettes et notamment directeur du Salon Belge.
Absolument.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je le disais à l'instant, on peut nous suivre à la fois sur vidéo... soit sur la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, soit sur notre site internet, et par les podcasts du Club des Hommes en Noir, sur des plateformes comme Deezer ou Spotify. Première question, messieurs, sur ce voyage apostolique en Afrique, quelle impression générale vous en retirez, qu'est-ce que cela vous inspire, monsieur l'abbé Cellier?
Alors, j'ai trouvé, j'ai peut-être pas tout regardé, mais que ce que je craignais, c'est que ça soit une longue diatribe contre le colonialisme. Il me semble que ça n'a pas été...
Une petite diatribe,
alors. Voilà, il y en a eu un petit peu, mais ça n'a pas été essentiel, ce qui me paraît un bon point, parce qu'il me semble que l'Afrique est décolonisée depuis à peu près un demi-siècle, et que donc c'est à elle de se prendre en main et d'assumer ses problèmes et de valoriser ses richesses naturelles et humaines.
C'est ce que leur a dit le pape.
Voilà, et en quoi je pense qu'il a raison. Le pape François a fait beaucoup de compassionnel, vous voyez ce que je veux dire, ce qui me paraît justifié, parce que vraiment il y a tellement de misère, et spécialement au Sud-Soudan, qui est un pays qui sort d'une longue guerre, et qui est, je crois que le pays le plus pauvre du monde, je crois, donc c'est effectivement, il y a de quoi, il y a un contexte de dévastation de la guerre, etc. Mais alors là, ce n'est pas à propos de François lui-même, je pense que c'est aussi à beaucoup de ses prédécesseurs, il me semble qu'il manque une théologie politique sérieuse pour aborder quand même des pays. Là, il n'y a pas seulement visiter des chrétiens, c'est aborder des pays et parler à des pays. Et je dirais une théologie politique sérieuse à la Saint-Rémy. Comment Saint-Rémy a cherché celui qui permettrait d'avoir un monde chrétien. Et probablement même, je pense qu'il manque au Vatican, non seulement une théologie politique sérieuse, mais probablement même une politique tout court. Et que je pense que ça s'est dirigé vraiment
à... Il y a eu des rencontres là avec des responsables politiques. Et...
Oui, non, mais quand je parle, je ne dis pas qu'il n'a pas eu des contacts politiques, mais une ligne politique pensée, construite par le Saint-Siège, je ne suis pas sûr qu'il y en ait, et encore moins une théologie politique qui a une vision pour l'avenir, je pense. Hein. Mais ce n'est pas le pape François qui est le premier responsable, il n'est pas le seul, ses prédécesseurs étaient déjà sur cette absence qui est en partie l'abandon du droit public de l'Église, etc., en est en partie la cause.
Ah oui, c'est une question donc beaucoup plus vaste. Ce seul voyage.
Non, c'était à propos de ce voyage, je fais cette remarque.
Père Jean-François Thomas.
J'en retiens la volonté de faire d'un homme qui est âgé, malade, handicapé, et qui a tout de même fait ce voyage qui a dû être particulièrement épuisant, dans deux pays qui sont parmi les pays d'Afrique les plus sujets actuellement à des guerres tribales et à des conflits internes. Donc il y a un certain courage chez lui. Quel était vraiment le but du voyage? Quels seront les fruits? Bon, ça reste en suspens.
Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Quel était vraiment le but de ce voyage? Alors, ça reste encore un peu flou.
C'est vrai qu'il avait promis de faire ce voyage, et puis le voyage avait été repoussé justement à cause de sa santé. Donc il a peut-être voulu simplement être fidèle au contrat, mais il y a sans doute autre chose que cela.
Fidèle au moins à sa promesse, je ne sais pas si on peut parler de contrat.
Fidèle
à sa promesse, c'est quand même une chose qui est plutôt positive. Monsieur l'abbé, Hervé Benoît, pardon.
Alors je note que le jour où nous enregistrons cette émission, nous célébrons avec l'Église universelle Sainte-Joséphine Bakita. Donc c'est une petite coïncidence spirituelle que je voulais souligner sur cette belle figure.
Alors peut-être un mot sur cette figure justement.
Parce originaire, plus ou moins du Sud-Soudan d'ailleurs, devenu esclave à l'intérieur même de l'Afrique, avant d'être vendu à des marchands arabo-musulmans, puis à une famille de diplomates italiens qui vont... Enfin, elle n'a pas été vendue, mais elle est devenue servante chez eux. Elle va les accompagner en Italie. Et là, elle recevra le baptême et elle deviendra religieuse. Voilà, et elle a été canonisée il y a quelques années.
Tout un chemin de sainteté à partir de cette condition très misérable.
Non seulement très misérable, mais en plus, elle a été esclave elle-même. Donc, c'est une figure magnifique.
C'est une façon d'être misérable, oui.
Alors, dans le calendrier liturgique, on fête aussi, dans un autre calendrier, Saint Jean de Mata, qui a fondé une congrégation, justement, pour délivrer les esclaves.
Donc, c'est une coïncidence merveilleuse.
Et j'ajoute simplement que j'ai été touché aussi par le fait qu'il a abordé cette question taboue qui est concernant l'Afrique, qui est celle du tribalisme. Voilà, et de la, du germe de division profonde et terrible. Il l'a abordé, il a dit des choses assez claires et fortes. Je ne sais pas si c'est une politique, mais enfin, il a dit des paroles.
Peut-être de politique.
Un sujet qui, en tout cas chez nous, est complètement tabou. Hein.
C'est un sujet politique, mais par exemple, le tribalisme, est-ce qu'il faut se dire... Je ne sais pas, je n'ai pas en vision politique qu'en fait, l'Afrique va passer par un État féodal, si vous voulez, de guerre féodale, jusqu'à ce que, petit à petit, de vrais États-nations émergent, puisque les États actuels sont des États de la colonisation, puisque le principe, c'est qu'on n'a pas changé les frontières de la colonisation. Souvent, ces frontières rassemblaient justement des ethnies différentes, avec les problèmes que cela pose, et il n'y a pas eu, au fil de conflits ou d'alliances, etc., une homogénéisation telle qu'on se reconnaisse comme étant purement et simplement congolais ou soudanais du Sud, etc. On reste encore avec des affiliations très fortes, comme, je dirais, entre les Francs, les Gallo-Romains, etc. Il y a eu, au départ, il a fallu petit à petit construire une unité.
C'est difficile d'en parler et d'avoir une politique quand l'Europe tout entière se refuse à aborder ces questions-là, se refuse à remettre en cause les frontières héritées de la colonisation. Est-ce que c'est ça qu'il dénonce quand il dénonce le colonialisme, sans le dire? Je ne sais pas.
Si vous voulez bien, on va quand même finir le tour de table, parce que là, il y a un cléricalisme qui s'exprime de manière quasiment...
Ouverte.
Monopolistique, très bien, cher Guillaume.
Vous en parlerez au synode, alors.
J'en parlerai au synode, mais on en parlera du synode. Guillaume, si vous voulez bien nous donner votre impression générale, avant qu'on rentre peut-être dans certaines questions plus particulières.
Moi, mon impression générale est assez embarrassée, parce que j'ai été effectivement un peu perdu. J'ai pas réussi à comprendre quel était l'objectif du voyage. Pourquoi ces pays-là, pourquoi cette cadence-là, par exemple, entre le Sud-Soudan et le Congo, je ne suis pas sûr que ça soit si évident que ça. Autant on comprend bien l'Afrique équatoriale française, autant on comprend bien l'Afrique islamique, autant ce mélange-là me paraît un peu étrange, mais bon, c'est évidemment pas moi qui organise les voyages pontificaux, donc je ne sais pas ce qu'il y avait derrière comme logique. En revanche, il y a effectivement un sujet politique qui pour moi est très, très frappant, c'est, pour reprendre ce que disait l'abbé Sellier, on a clairement un déficit politique au sommet de l'Église. Ce déficit politique, à mon avis, aggrave d'une certaine façon la situation de l'Afrique. Évidemment, je ne prétends pas que le Vatican soit à l'origine des problèmes de l'Afrique, mais comme on ne fait de politique que par les droits de l'homme, ce qui est une façon très peu politique de faire de la politique, on n'est pas capable de dire aux Congolais qui sont Congolais, on n'arrive pas à traiter la question du tribalisme dont on parlait un instant de façon assez pertinente. J'ajoute à ça que dénoncer le colonialisme peut s'entendre, évidemment, je comprends bien que le pape François ne puisse pas faire l'éloge du colonialisme. En revanche, je ne comprends pas pourquoi on ne dénonce pas le décolonialisme, enfin, ou les erreurs de la décolonisation, parce que un des problèmes majeurs de l'Afrique, il y a peut-être la colonisation, mais surtout la décolonisation. Ça a été très mal géré. On n'avait pas d'élite africaine capable de tenir les pays, ou très peu, et en tout cas pas dans tous les pays. On n'avait pas d'élite africaine capable de prendre la suite. Et donc, on n'a pas été capable de sortir des tribus vers les nations. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait quelque chose comme, ce qu'évoquait l'abbé Sellier analogiquement, quelque chose comme des chefs francs qui pourraient prendre le relais. Parce qu'en face, on n'a pas quelque chose comme l'ancien imperium romain tenu par les évêques africains, à ma connaissance, ou le Vatican en particulier, ne sont pas à même de proposer une théologie politique chrétienne, en quelque sorte.
Alors là, on est entré dans le vif du sujet, enfin, si je puis dire, sur le colonialisme, parce que si on revient donc au voyage lui-même, le pape François a appelé à l'Europe, principalement l'Occident de manière plus large, a cessé d'étouffer l'Afrique. C'est un appel très fort. Donc il met là en cause un néocolonialisme qui prend les aspects des organismes internationaux et des flux économiques. Et en même temps, il a appelé l'Europe à jeter un certain regard sur l'Afrique, à ne pas s'en désintéresser. Donc il y a une espèce d'en même temps, là, si je puis dire, qui est un peu déstabilisant. Ouais, Monsieur l'avait essayé. Bah,
d'abord, je dirais que s'il y a actuellement un néocolonialisme important en Afrique, il s'appelle la Chine, car c'est la Chine qui est en train de prendre la place de l'Occident. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Deuxième chose, lorsqu'on dit qu'effectivement, je pense, il y a des entreprises mondiales d'origine européenne ou américaine qui sont établies en Afrique et qui, je dirais, se servent assez largement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des flux financiers via Western Union, etc., qui représentent des centaines de milliards partis de l'Europe et qui vont vers l'Afrique. Donc il y a aussi un équilibre dans ce sens-là.
Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est-à-dire
les immigrés en Europe envoient de l'argent à leur famille, qui est une partie du financement de l'Afrique. Il ne faut pas oublier cela. L'Europe participe à travers les immigrants qu'elle accueille à des finances pour l'Afrique. Mais fondamentalement, même s'il y a des entreprises qui peuvent abuser, ce qui est toujours possible, je pense que c'est anecdotique par rapport au fait que les gouvernants, beaucoup de gouvernants, je dirais, africains, pillent leurs États, ou en tout cas ne travaillent pas à les développer sérieusement. Et que, je dirais, ces entreprises qui sont dans les ports, etc., bon, qu'on connaît, on ne va pas dire les noms, hein, n'est-ce pas, qui dirigent
qui dirigent
des chaînes de télévision, etc. Mais je n'en dirai pas plus. Mais ces entreprises doivent représenter 5 à 10% du potentiel économique, ce qui est peu par rapport à 95% par rapport à la population et son activité économique, qui sont mal gérées dans beaucoup de pays. Peut-être, je pense pas dans tous, mais dans beaucoup de pays. Et c'est ça le vrai problème. Il faut que l'Afrique réellement se prenne en main et assure son développement. C'est un pays extrêmement riche, des richesses minières immenses. Je pense des richesses agricoles qui ne sont loin d'être négligeables. Et bien d'autres ressources. Des ressources pour implanter des usines, j'en sais rien. Après tout, il y a des usines en Chine, il y a des usines au Pakistan, il y a des usines au Bangladesh ou je sais pas quoi. Pourquoi pas des usines en Afrique?
Très bien, je laisse la parole au père Thomas qui voulait réagir, mais si j'ai bien compris, vous appelez les Africains à prendre leur
distance. Je pense que c'est ça la réalité.
Père Jean-François Thomas.
Oui, le pape a employé comme expression, une des expressions assez fortes qu'il a employées, c'était « retirez vos mains de l'Afrique ». Alors ça ne signifie pas, il n'a pas invité les pays occidentaux à détourner le regard de l'Afrique, mais à retirer les mains. Parce que, bien évidemment, ce qui est visé, c'est l'utilisation de l'Afrique, ou tout au moins de certaines richesses africaines, pour un certain nombre de sociétés. En revanche, il a été très, très sévère en ce qui concerne la corruption au sein même de l'Église. Et je pense qu'il y est peut-être aussi allé un peu pour ça.
Ce serait l'une des raisons de
ce serait peut-être une des raisons.
De ce voyage, donc.
Notamment au Congo, il a été très très ferme. Alors, Est-ce que cela aura des répercussions sur le clergé, notamment sur le haut clergé? Ce n'est pas certain.
Parce que le haut clergé dans ces pays aurait trop de liens, par exemple, avec le monde politique africain. Oui, c'est ça. Et se sert au passage, là aussi.
Et se sert au passage, enfin, bénéficie d'un certain nombre de privilèges. Lorsque vous avez le président qui, même pour une consécration épiscopale, par exemple, va faire des cadeaux somptueux à l'évêque, aussitôt, l'évêque deviendra client de ce président. Et le Congo, un jésuite congolais de ma communauté me disait que c'est un pays qui est politiquement extrêmement complexe, parce qu'il y a entre 1000 et 2000 partis politiques.
Pardon ?
Il y a entre 1000 et 2000 partis politiques.
Ah oui,
Donc vous voyez que c'est une
démocratie
mosaïque.
Plus.
C'est une mosaïque qui dépasse même largement le problème tribal. On en est vraiment à un morcellement. Donc le pape y est allé aussi comme un signe d'unité, si c'est possible. Et on voit bien dans toutes les prises de parole qu'il a pu avoir, que ce soit avec les hommes politiques ou bien même dans le cadre plus strictement liturgique, et il est toujours revenu sur ce sujet de l'unité.
Sur l'importance de l'unité des peuples africains. Monsieur l'abbé, mais Guillaume de Thulois, vous voulez réagir ?
Je voulais juste dire un mot sur en matière de néocolonialisme. Il y a évidemment les questions économiques qui sont importantes, mais moi je suis quand même plus frappé par le néocolonialisme idéologique de l'Occident en Afrique. Quand certains gouvernements disent « vous aurez de l'aide au développement à condition qu'il y ait une gay pride », ça existe vraiment, hein, Obama l'a vraiment fait.
Sûr, oui.
Et moi, les quelques échos que j'ai d'hommes politiques africains avec qui j'ai fait deux ou trois campagnes politiques, ce qui est très frappant, c'est que leur obsession, c'est d'être ni musulman ni LGBT. Systématiquement, la première phrase qui sort, c'est ça. Grâce à la France, on peut éviter ça. Ce qui prouve qu'ils ont une connaissance assez approximative de la France, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis très frappé qu'on focalise sur une chose qui est en fait relativement inaccessible à l'Église. S'il y a de la corruption économique, l'Église peut toujours tonner contre la corruption. C'est pas elle qui empêchera grand-chose. En revanche, l'Église a un vrai pouvoir d'évangélisation à destination de l'islam et un vrai pouvoir de résistance pro-famille ou pro-vie à destination de l'idéologie LGBT. Et j'ai pas l'impression qu'on utilise ce pouvoir ou cette autorité de façon très efficace en Afrique.
En tous les cas, ces thèmes-là ne semblent pas
ressortir. En tout cas, ça n'est pas sorti tellement dans ce que j'ai vu du voyage. Mais.
Monsieur l'abbé, je vous ai coupé, pardon.
Non, je vous en prie.
Empêchez de parler, mais vous voyez,
pas
c'est
du
un
tout,
retour.
Il y a pour une fois, ce n'était pas le cas.
Le laïcisme s'exprime. Allez-y.
Je vais, dans le prolongement de ce que disait Guillaume, il y a aussi un néocolonialisme à travers, alors ça, je n'ai pas suffisamment épluché ce qu'a dit le pape, à travers le développement, en particulier dans les immenses métropoles et mégalopoles africaines, des communautés évangéliques et des nouvelles églises également extrêmement éclatées, et qui représente un néocolonialisme, on va le dire pour faire très court et raccourci, mais au service de l'Occident, en particulier des États-Unis. Je ne sais pas si le pape a abordé ce sujet, parce que je pense que c'est quand même quelque chose de...
Visiblement, non.
C'est quand même un certain nombre de voyageurs qui sont allés en Afrique récemment ou qui ont comparé avec des voyages qu'ils ont faits il y a quelques années. C'est une explosion de ces nouvelles églises, de ces nouvelles communautés et qui prennent particulièrement dans les villes où les structures tribales ont éclaté, les rapports entre, si importants pour l'Afrique, entre les anciens et les jeunes, etc., sont complètement... Il y a une espèce de choix de modernité, de rupture avec la tradition clanique, de la rupture de la tradition des structures ou patriarcales ou matriarcales ou fondées sur les anciens, vu la taille de ces mégalopoles, doit être aussi un problème important. Je ne sais pas si le pape a abordé cette question. Il y a eu des allusions à l'œcuménisme, mais je ne sais pas si ça concerne ces choses-là.
Oui, mais parce qu'une partie de son voyage a été effectuée en compagnie de l'archevêque de Canterbury, notamment.
Oui, mais qui n'est pas dans cette perspective-là du tout.
Qui n'est pas concerné, non.
Ah si, il est concerné aussi parce que ces communautés, entre guillemets, si vous me permettez cette expression, taille des croupières aussi à toutes les églises instituées, voilà.
Alors on est quand même frappé par le fait que, mais je crois que c'est Guillaume de Thulois qui le disait en début d'émission, c'est que, ou vous, monsieur l'abbé Cellier, c'est que plusieurs décennies après la fin de la colonisation, on parle toujours, quand on aborde le sujet de l'Afrique, à l'occasion d'un voyage apostolique par exemple, on parle toujours de la, des méfaits et du colonialisme. Est-ce que, justement, si on faisait un petit retour rétrospectif dans l'histoire, est-ce qu'on peut dire que pour l'Église, il y avait un droit à la colonisation? Est-ce qu'on, finalement, cette colonisation, elle n'a été que négative?
Il y avait même un devoir, à mon avis.
Guillaume de Sulois.
C'est-à-dire que...
C'est vous qui êtes courageux, vous lancez.
En fait, il y a deux sujets dans la colonisation. Il y a la colonisation pratique qu'ont fait les puissances européennes au XIXe siècle, qui est un désastre, il faut dire les choses comme elles sont, en particulier parce que c'est maçonnique et protestant, là aussi il faut appeler les choses par leur nom.
Voilà, c'est clair, merci. Suivant.
Mais il y a un autre aspect de la colonisation qu'on a très bien vu par exemple en Amérique du Sud, le pape est assez bien placé pour en parler, et qui est que la colonisation a été au départ pensée par les puissances chrétiennes, là pour le coup, comme la façon d'apporter... la civilisation, y compris la civilisation chrétienne, et d'abord le christianisme. Et objectivement, en Afrique, on peut dire ce qu'on veut, mais en Afrique, malgré les énormes vices de la colonisation, on a par exemple apporté l'abolition de l'esclavage, qui n'est quand même pas tout à fait rien. L'abbé Benoît en parlerait beaucoup mieux que moi, mais il a écrit un bouquin sur un type absolument incroyable qui a, contre l'avis des autorités françaises, dans un pays sous protectorat français, a fait supprimer l'esclavage autour de lui, à la force des armes.
Hein.
Le chouan du Tanganyika.
Voilà, je vous présente mon éditeur.
Ah oui, d'accord, il y a
un peu de collusion.
Il y a un peu de collusion, c'est une page publicitaire.
Non, mais c'est intéressant parce que ce personnage a effectivement...
Qui s'appelait comment alors?
Qui s'appelait Ludovic Joubert, un ancien zouave pontifical, qui est allé s'établir là-bas avec les Pères Blancs sous la houlette de Mgr Lavigerie. Et qui a fait le coup de feu, carrément.
Contre
les esclavagistes à arabo-musulmans, sur les bords du lac Tanganyika, dans une zone disputée entre l'Allemagne, la Belgique et la France était plus lointaine.
La France était un peu plus loin.
De fait, il y a eu. Ça a été une sorte de. Comment dirais-je de... Il n'a pas été le seul, mais en tout cas, le combat de l'Église, de certains gouvernants, etc., contre l'esclavage a été majeur dans ces régions-là, c'est clair. Qui était ravagé par un fléau inimaginable, interne à l'Afrique, et appuyé sur la puissance coloniale particulière du monde arabo-musulman.
Peut-être pouvons-nous rappeler le nom de l'éditeur. Pas de l'éditeur, la personne, mais l'éditeur.
Les Presses de la Délivrance.
Les Presses de la Délivrance.
Justement, pour parler d'esclavage, c'est pas mal.
c'est pas mal.
Si on en revient à la colonisation pour montrer sa complexité, rappelons que l'Afrique, c'est un sujet intéressant, l'Afrique est colonisée au XIXe siècle seulement. C'est sur les cartes du monde jusqu'au XIXe siècle, c'est blanc. On ne sait pas ce qui se passe. On ne connaît que la périphérie où on a quelques comptoirs. Et avant cette colonisation donc européenne, il y a eu effectivement ce phénomène de l'esclavage, qui est un phénomène dans lequel, en Afrique, des Africains capturent d'autres Africains pour les amener à ces comptoirs où ils seront achetés par les marchands européens, donc européens et américains.
Au préalable, ils amenaient ces esclaves sur les comptoirs arabes.
Voilà, mais je dirais, donc il y a en réalité donc une traite intra-africaine et une traite extra-africaine, donc la traite classique européenne et américaine. Et donc, dans un deuxième temps, l'Europe à la fois politique et l'Europe de l'Église, si je puis dire, va lutter contre ce fléau de l'esclavage et l'éradiquer à peu près complètement, disons. Hein. Donc on voit que c'est pas tout blanc et tout noir. C'est un scandale que les peuples chrétiens aient rétabli l'esclavage à partir du XVIe, XVIIe siècle. C'est un scandale absolu. Mais de l'autre côté, ces mêmes peuples ont travaillé à son abolition, de même que les mêmes peuples chrétiens ont fait la guerre de l'opium pour imposer aux Chinois l'opium, puis ensuite ont combattu la drogue. Donc rien n'est... C'est pas tout blanc et tout noir. C'est complexe, c'est difficile. Et donc, je dirais, il faut, par rapport à ce colonialisme qui a disparu en Afrique depuis à peu près un demi-siècle, il faut l'aborder avec une vision à la fois historique et politique, je dirais purger cette chose-là compliquée, mais aussi aller de l'avant, ne pas dire « c'est la faute de la colonisation, et c'est pas notre faute ».
Père Jean-François Thomas, vous vouliez encore intervenir, enfin à nouveau intervenir, pas encore, pardon.
Je vous en prie. L'Église n'a pas commencé à réfléchir sur le bien fondé ou bien le mal de la colonisation au XIXe siècle avec l'Afrique. C'est dès la découverte du Nouveau Monde et avec notamment cette grande figure du dominicain Bartolomé de las Casas, qui est un contemporain de Christophe Colomb, puisqu'il est parti, lui, dans le Nouveau Monde avec un des fils de Christophe Colomb qui était nommé gouverneur des Caraïbes. Donc au départ, il a participé au mouvement général, qui n'était pas un mouvement, contrairement à ce qui est présenté généralement, un mouvement de destruction et de massacre. Les massacres interviendront un peu après. Mais très rapidement, il s'est rendu compte que eh bien, la colonisation ne pouvait pas être bonne sans, dans le même temps, l'évangélisation. Donc il a beaucoup insisté sur ça. Et il a eu des rapports avec le pape de l'époque. Charles Quint, dans un premier temps, a accepté de réformer les lois qui pouvaient être des lois de la colonisation néfaste. Ensuite, il est revenu sur sa parole. Quoi qu'il en soit, Las Casas, qui était un dominicain, a eu également d'autres disciples. Et une grande partie de l'Église a bien travaillé dans ce sens-là. Donc on voit que l'intérêt pour la colonisation au sein de l'Église a toujours été lié avec une morale et avec une politique, disons. Ce n'était pas quelque chose d'aventureux. Et ensuite, bon, il y a eu tout de même la très belle épopée des jésuites au Paraguay, bon, qui s'est mal terminée à la fois pour eux et puis pour les réductions du Paraguay. Mais là, c'était des luttes, évidemment, politiques entre l'Espagne et le Portugal. Et l'Église
était prise
entre deux feux et elle n'a pas eu beaucoup d'autorité.
Alors, nous venons d'assister quand même à un événement extraordinaire. Si on pouvait, on ferait une minute de silence.
Parce que j'ai parlé de louer
un dominicain.
L'éloge d'un dominicain par un jésuite.
Vous voyez, ça, c'est la grande ouverture de la compagnie.
Et voilà, et que je m'empresse de saluer en votre personne.
Je vous en remercie.
Monsieur l'abbé Benoît, vous vouliez intervenir?
Oui, dans le prolongement de ce que dit le père Thomas, il me semble qu'il y a deux choses qu'on pourrait ajouter. Je me demande s'il pourrait réfléchir à ces questions plutôt que d'utiliser le mot colonialisme, qui est de fait devenu connoté très négatif, etc., si on ne devrait pas utiliser l'analyse plutôt de l'impérialisme, ce qui permet de mettre sur le même plan les empires internes à l'Afrique, les empires européens, etc., qui nous permettraient de comprendre peut-être davantage ce que représente le fait pour un peuple guerrier ou puissant de se développer, de prendre pied dans d'autres régions, d'asservir éventuellement des populations pour des buts, etc., je dirais, d'ordre financier, de pouvoir, de domination, etc. Et du coup, bon, ben, on analyserait tel phénomène impérialiste à l'aune de l'époque ou du temps. Ça, c'est le premier aspect, la question que je pose. Et puis alors la deuxième, pour ce qu'on parle du colonialisme, de l'Amérique du Sud, etc., je voudrais rajouter une troisième famille religieuse, à savoir les franciscains. Parce que derrière le grand départ des Espagnols et des Portugais vers l'Afrique et vers l'Amérique du Sud, il y a aussi un grand projet millénariste, parce qu'on cherche, devant l'éclatement de l'Europe et la grande crise protestante, on veut reconquérir Jérusalem, qui est le centre du monde. Et lorsque Christophe Colomb part, il est accompagné très vite par 12 franciscains du mouvement spirituel, qui cherche une nouvelle population qui va prendre à son compte la vocation du monde chrétien à reconquérir Jérusalem, à faire l'unité du monde, puisque les princes chrétiens l'ont perdu. Et il y a même un certain nombre de théoriciens franciscains qui se sont posés la question de savoir si l'Inca, à partir du moment où il serait baptisé, et c'est son refus du baptême, et la concurrence que les rois d'Espagne ont pu voir dans l'Inca, qui ont fait ces guerres, ces massacres, etc. Mais il y avait l'idée que, au-delà de l'or, de le machin, il y avait le projet de reconquérir Jérusalem par des populations neuves, non marquées par le péché et les divisions de l'Europe. Donc et les franciscains portaient ce projet. Christophe Colomb, il n'est pas du tiers ordre franciscain, mais il est proche d'eux. Le conseiller politique de Charles Quint écrit ce projet qui va accompagner la découverte de l'Amérique, qui est tout à fait extraordinaire, et qui fait que les populations locales, pour le coup, il y a un projet impérialiste, mais qui est un impérium chrétien, et qui reçoit les peuples étrangers à l'intérieur de ce projet.
Alors, nous avons fait une extraordinaire traversée océanique, là,
peut-être un peu loin de l'Afrique, évidemment, mais les rois du Congo, les premiers conquérants portugais du Congo ont la même idée en baptisant un des rois du Congo et en espérant qu'il serait le Luc Capet ou le Clovis
de la reconquête de Jérusalem.
En tout cas d'un royaume chrétien du Congo qui pourrait conquérir l'Afrique.
On termine sur le colonialisme avec Jules de Tulloy, peut-être.
Juste un mot sur le pape contemporain de la colonisation et de la décolonisation, pardon, Pie XII a beaucoup écrit sur le sujet et en pape politique. Enfin, il n'était pas que ça, mais il était aussi un grand commentateur de la politique. Et en gros, sa thèse était c'est légitime à la condition qu'on prépare les enfants à devenir adultes. Et pour moi, c'est exactement. L'énorme faiblesse de la colonisation européenne, en Afrique en tout cas, a été qu'on n'a pas. On est parti trop vite. Vous me direz, on ne nous a pas tellement laissé le choix.
Je vais vous le dire.
Mais pour moi, ce que disait Pie XII reste toujours d'actualité. L'échec de la colonisation, c'est le fait qu'elle s'est arrêtée un siècle trop tôt.
Très bien, merci Guillaume. Je poursuis le voyage du pape en Afrique. J'ai été marqué, je ne sais pas si c'est à raison ou pas, par le fait qu'il a eu plusieurs réunions privées avec des membres de la Compagnie de Jésus. Et il semblerait que maintenant, à chacun de ses voyages, c'est une habitude qu'il a prise. C'est par un retour particulier vers l'ordre qui l'a porté ou qu'il y a une autre visée ? Parce que souvent, quand il s'exprime auprès des jésuites, soit ça finit par transparaître dans la presse et on apprend on découvre parfois des propos un peu étonnants. Alors, je vous prends un peu au piège, Père Jean-François Thomas.
Oui, mais votre question n'est pas du tout innocente, en fait.
Il n'y a aucune question innocente. Mais les réponses peuvent l'être,
Bien sûr. Mes réponses sont toujours innocentes. En ce qui concerne le pape Bergoglio, lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, il avait pris, en effet, une certaine distance vis-à-vis de la Compagnie de Jésus, ce que devrait d'ailleurs faire normalement tout évêque par rapport à son ordre religieux, puisque l'évêque devient le père de tous et pas simplement d'un ordre en particulier. Mais dans son cas, c'est parce qu'auparavant, son provincialat s'était terminé un peu en queue de poisson et il avait été mis à l'écart par le père général de l'époque. Et donc ses relations avec la compagnie avaient été plus que distendues. Ce qui est très surprenant, c'est que en effet, depuis qu'il a été élu pape, ses liens se sont renoués avec notamment les communautés jésuites des villes, des pays qu'il traverse. Et c'est devenu ce qu'on appelle une tradition.
Oui, donc vous la confirmez bien, cette tradition.
Je la confirme. Et maintenant, il n'y a pas une seule ville que le pape visite où il ne rencontre pas la communauté jésuite. Alors, ce qui est dit généralement, ce sont des choses qui n'ont rien de particulièrement original. C'est déjà ce qui a été dit auparavant. Et puis, le pape s'intéresse à ce que font les jésuites de l'endroit. Et c'est un échange fraternel et absolument pas magistériel.
Mais est-ce que ça veut dire que lorsqu'il sera à Marseille, lorsqu'il visitera cette ville, il s'adressera à la communauté jésuite ? Est-ce qu'il y a une communauté jésuite à Marseille ?
Alors en fait, il aurait pu venir à Marseille il y a 2 ans.
Ça a été confirmé par le Saint-Siège.
Lorsqu'il y a eu la grande réunion de ce qui s'appelle la famille ignatienne. Les jésuites, notamment de la province d'Europe occidentale francophone, étaient prêts évidemment à accueillir le pape. Ça n'a pas été le cas, mais je pense que s'il vient à Marseille, il a bien précisé que Marseille n'était pas en France. S'il vient à Marseille,
il veut dire que c'est dans le Maghreb ?
Non, il a dit que en fait c'était une ville ouverte sur le bassin méditerranéen. Vous avez vu qu'il n'est pas venu en France, même quand il est venu à Strasbourg.
À Strasbourg, effectivement.
Il n'est pas allé à la cathédrale de Strasbourg, par exemple, alors que c'était le millénaire de la cathédrale. Donc à Marseille, ce sera un peu le même procédé, mais je pense que à moins qu'il ne fasse l'aller-retour que dans la journée, ce qui est aussi possible, il s'arrêtera dans la communauté jésuite, et il est possible que des jésuites, alors de toute la province, descendent à Marseille pour le rencontrer.
Pour le rencontrer. Moi, je pensais que le concept de ville ouverte était un concept en temps de guerre.
Ouais. Mais on est en temps de guerre à Marseille.
Voilà, merci cher Guillaume. Nous continuons, retour du...
Je suis pour rien, je n'ai rien entendu.
Retour du voyage du pape où, dans l'avion, il semblerait qu'il se... enfin, il s'est exprimé, c'est pas il semblerait, mais il s'est exprimé en dénonçant l'instrumentalisation de la mort de Benoît XVI contre son propre pontificat. Guillaume de Thulois, en tant que laïc, c'est peut-être plus simple pour vous d'aborder un sujet pareil.
Pour être franc, je suis de plus en plus exaspéré par le magistère aéronautique, mais franchement, ce qui répond au journalisme me paraît complètement lunaire, parce que s'il voulait dire que, évidemment, son pontificat est en opposition avec celui de son prédécesseur, il ne le ferait pas autrement.
Il cherchait à répondre.
On ne se justifie pas devant des journalistes d'abord, c'est idiot d'envoyer le message que peut-être il pourrait y avoir un débat entre l'interprétation de Vatican II par Benoît XVI et la sienne. Pour être franc, je ne suis pas certain qu'il y ait une interprétation très claire de Vatican II par le pape actuel, mais si on voulait insister sur le fait qu'effectivement, autour de la mort de Benoît XVI, on s'est posé pas mal de questions, ben, on ne pourrait pas faire autrement.
Est-ce qu'il ne met pas en cause les livres
si, bien sûr, qui c'est sont parus,
celui du secrétaire de Benoît XVI, Mgr Gensheim et...
Oui, mais je dirais plutôt le contraire de ce qu'il dit, comme d'habitude.
Vous aimez dire le contraire de ce que dit tout le monde.
Voilà, parce que quand même, cette situation avec le pape émérite et le pape en charge était complexe, difficile. Le pape émérite Benoît XVI a été vraiment très réservé et a fait de gros efforts pour ne pas, des tristesses qu'il a eues vis-à-vis comme la destruction de ce qu'il avait fait par le pape actuel. Et il y a eu le livre de Gensheim, je ne l'aime pas, mais bon, ça n'est pas...
Vous n'aimez pas, pardon, le livre ou Mgr Gensheim?
Je n'aime pas ce côté de quelqu'un qui est secrétaire, qui est donc censé garder des secrets, et qui, dans les 5 minutes après la mort, a déjà publié son livre. Je trouve ça très indécent, mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon, il y a eu un ou deux livres qui sont sortis, ça n'a pas été une campagne internationale, c'est quand même anecdotique par rapport à une situation complexe, difficile, dans lequel on aurait pu avoir des conflits beaucoup plus graves. Donc là, je trouve qu'il essaye d'utiliser un ou deux phénomènes de peu d'importance pour
peut-être en France. Je pense qu'en Italie, c'est beaucoup plus fort, puisque la parole est beaucoup plus libre dans l'Église italienne. Enfin, dans l'Église italienne, je ne sais pas, mais en tous les cas, chez les commentateurs religieux italiens. Père Jean-François Thomas, et puis on terminera
Ce qui nous paraît anecdotique, en effet, à partir de ce dialogue avec des journalistes, alors c'est un peu ridicule, révèle le climat délétère qui existe actuellement au sein même du Vatican. Donc je pense que le pape, là, a exprimé quelque chose qui...
Une sorte de colère, en fait, devant une situation.
Oui, qui doit vraiment le miner. Qui
révèle ou confirme, en fait, une situation.
Voilà.
Monsieur l'abbé Benoît, c'est à vous de conclure sur ce sujet.
J'ai honte, mais je vais conclure avec une petite taquinerie.
C'est bien.
Guillaume de Thulois s'interroge sur le magistère aéronautique. Un de mes amis, assez taquin lui aussi, s'interroge sur les réglages de l'oxygène dans les avions d'Alitalia. Il lui semble que ça provoque parfois des troubles.
Nous ferons semblant de ne pas comprendre. Merci, monsieur l'abbé, sur cette note anecdotique. Nous retrouvons pour un prochain Club des Hommes en Noir sur un tout autre sujet. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre à la fois sur le site internet de L'Homme Nouveau, sur notre chaîne YouTube, toujours de L'Homme Nouveau. N'hésitez pas à vous y abonner, à nous encourager, pardon.
Extraordinaire.
Hein. Et sur les différentes plateformes de podcast pour ceux qui veulent nous écouter. À très bientôt, pardon. Et d'ici là, que Dieu nous garde.